sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Messieurs les chanceliers, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers consoeurs, non, ma chère consoeur, mes chers confrères. Un voyageur arabe débarquant à Canton en 851, sous la brillante dynastie des Tang, écrivait ceci. L'empereur de la Chine ne paraît en public que tous les 10 mois. Et il dit que s'il se faisait voir plus souvent au peuple, il perdrait le respect qu'ils ont pour lui. Car il tient pour maxime que les principautés ne subsistent que par la force et que les peuples ne connaissent pas la justice. Qu'ainsi, il faut employer avec eux la force et la violence afin de maintenir parmi eux la majesté de l'Empire. La version anglaise de ce récit, qui avait été traduit au début du XVIIIe siècle par Eusèbe Renaudot, a été republiée en 1832 par le premier missionnaire américain en Chine dans le premier numéro d'une revue d'information sur la Chine qu'il lançait à Canton. Et à propos de l'auteur arabe, ce Bridgman ajoute ce commentaire « On garde toujours cette maxime que le peuple ne sait pas ce qu'est la justice et que la contrainte et la violence doivent préserver la majesté de l'Empire. » Beaucoup de citoyens chinois aujourd'hui seraient tentés de dire la même chose. Au début de ce mois de septembre, un éditorialiste chinois en vue écrivait « Nous sommes à peu près passés de l'économie planifiée à l'économie de marché, mais le point fondamental de la réforme de notre système politique est que, aussi bien du point de vue des concepts que du point de vue des garanties institutionnelles, nous passions du pouvoir politique sorti du canon du fusil des attaques des fleuves et montagnes, c'est un dicton traditionnel chinois, pour occuper le terrain, à un pouvoir qui soit conféré par le peuple. Sans ce changement, il est impossible d'approfondir la réforme du système économique, culturel, environnemental et encore plus difficile de conduire en profondeur une réforme sociale visant à une société citoyenne. Remplacé par une démocratie constitutionnelle, le cycle incessant de troubles et de trêves, de couronnements et de massacres de bandits qui caractérisent dynasties et hégémonies, voilà l'aspiration constante de génération et génération d'hommes généreux et courageux dans notre pays depuis les temps modernes. Depuis plus de 30 ans de réforme et d'ouverture, nous avons appelé sans relâche à approfondir la réforme du système politique. C'est précisément pour mettre pleinement en œuvre un gouvernement reposant sur la Constitution, qui fasse du peuple le vrai maître, qui confine le pouvoir dans le cadre des institutions, qui limite efficacement le désir des dirigeants d'étendre leur pouvoir, ainsi que les frénésies d'exercice arbitraire du pouvoir, afin de garantir parfaitement à l'ensemble du peuple la jouissance de tous les droits civiques que lui accorde la Constitution. Ces observations de témoins extérieurs et intérieurs semblent justifier l'énorme sujet que m'a confié notre président et qui concerne, du néolithique à nos jours, un espace plus vaste que l'Europe et très mouvant. Si l'on convient d'appeler Chine cet espace d'Asie orientale, la réponse à la question posée paraît simple. Dans les faits, la conception du pouvoir politique en Chine a toujours été et est encore l'exercice, voire le monopole, de la force armée, de la violence, la continuité est parfaite. Elle se résume, cette continuité, dans la formule de Mao Zedong, qui était exactement « Il faut comprendre qu'on prend et détient le pouvoir politique grâce au canon du fusil ». C'est un propos qu'il a tenu le 7 août 1927 pour reprocher au Comintern de ne pas avoir doté le Parti communiste chinois d'une armée, ce qu'il s'est empressé de faire. Mao, cette vision donne l'idée d'un pouvoir politique agissant comme une sorte de coup d'État permanent, tout puissant, toujours autoritaire et absolu. Mais comment se fait-il que la force ait pu rester ainsi le fondement, l'essence même du pouvoir, alors que les formes politiques ont subi un bouleversement majeur, ne serait-ce qu'au cours du dernier siècle, en passant du pouvoir personnel d'un empereur héréditaire à celui du chef élu d'un parti communiste. Le rôle que garde l'usage illimité de la force et de la contrainte dans l'exercice du pouvoir politique en Chine relève en partie d'une histoire dont il faut essayer d'éclairer certaines circonstances ou traits particuliers. Je vous propose donc de faire d'abord un retour sur les origines du pouvoir politique en Chine et d'examiner l'héritage de l'Empire du point de vue de la conception du pouvoir politique, c'est-à-dire les grandes notions qu'il a ancrées et laissées, ainsi que les mots pour les dire, à savoir principe d'unité et d'intégration du monde humain, principe d'un pouvoir unique sans partage indivisible, principe de suprématie absolue de ce pouvoir, ce qui signifie suprématie du pouvoir politique sur tous les autres et primauté du politique. Dans une deuxième partie, nous observerons les innovations introduites successivement par le régime communiste dans l'exercice du pouvoir, du point de vue des hiérarchies, d'initiative et de contrôle. Nous terminerons par l'analyse du retour actuel à un système d'hégémonie du Parti communiste, avec un genre de principat, selon les catégories de Bertrand Jouvenel, en essayant de mesurer son emprise et son efficacité réelle. Voyons l'héritage du passé impérial. Dans son exposé introductif à nos enquêtes sur le pouvoir, Jean Béchler classait le pouvoir de la Chine ancienne et impériale dans la catégorie hiérocratique. Ce qualificatif, à mon sens, est contestable. En effet, le ciel, qui lui semble fonder le droit à régner et auquel se réfère aussi l'appellation de fils du ciel dans le titre que m'a donné notre président et que portent les souverains, ce ciel n'est pas un dieu ni une divinité. Il n'est pas certain qu'il soit le titulaire transcendant du pouvoir et que le souverain soit son vicaire, selon l'expression. Le culte du ciel que seul pratique l'empereur est en réalité une fabrication tardive. Les fouilles archéologiques et les nombreux travaux consacrés au sujet, notamment le déchiffrement de milliers d'inscriptions oraculaires datant de la dynastie des Shang entre 1400 et 1100 avant notre ère, puis sur le bronze après cette date, ces travaux ont mis en évidence que la royauté apparue dans le bassin du moyen fleuve jaune au cours du deuxième millénaire avant notre ère, a pour origine la famille. Elle est une extension de cette institution. Le pouvoir du souverain est dérivé du pouvoir du chef de famille qui conduit le culte familial des ancêtres. Et ce qui est désigné plus tard comme ciel et le lointain ancêtre commun. Les structures familiales très originales et dont la forte influence est perpétuée sur le pouvoir politique au long de l'histoire donnent à l'ethnie sa cohésion avec une hiérarchisation de rang très précise qui distingue toujours entre aînés et cadets dans chaque génération et qui suit exactement les relations de parenté. L'ordre, selon l'aînés, est devenu le support de l'ordre social dans son entier. Le roi est considéré comme le père de l'ethnie, héritier de la puissance de l'ancêtre fondateur. Il est le seul vrai père, et le mot qui le désigne emporte le signe. En effet, tous les autres pères sont désignés comme fous. L'oncle, c'est beau, fou, etc. Tandis que lui a un caractère spécial et l'étymologie de ce caractère, Wang, qui est sur la feuille que je vous ai fait distribuer, qui désigne le souverain, n'est pas du tout celle qui a été inventée au IIe siècle avant notre ère par Dong Zhongshu, un confucéen, et qui est répétée à l'envi partout. Selon Dong Zhongshu, ce sont trois traits horizontaux superposés représentant le ciel, l'homme et la terre, reliés entre eux par un trait vertical qui est le souverain et qui les met en communication. Et Dong Zhongshu accompagnait son explication d'une citation de Confucius, « L'un qui joint les trois, c'est le roi ». Or, cette citation ne se trouve nulle part dans les textes de Confucius et c'est probablement une invention de Dong Zhongshu ou un apocryphe. En outre, son explication porte sur une forme tardive du caractère souverain Wang. La graphie primitive, qu'on trouve seule sur les inscriptions anciennes pour désigner le souverain, est un Y à l'envers que vous voyez sur ma feuille, posé sur un trait horizontal et barré d'un tiret au niveau de la fourche des deux branches. Plus tard, on a ajouté un deuxième tiret dans certaines inscriptions, et puis même un troisième tiret. Et parfois, l'interprétation admise aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'un être humain grand dont le caractère mâle est souligné par la partie supérieure du dessin, qui est la graphie du mot « che » que vous trouvez aussi sur ma feuille, comme une croix avec un petit trait en dessous, qui à l'origine désigne le mâle, on le trouve dans les inscriptions, et cette virilité par excellence, reconnue au souverain, doit être entendue au sens de paternité. Il est le viril parce qu'il est considéré comme le père de l'ethnie, l'héritier de la puissance de l'ancêtre fondateur. Et à ce titre, il est le vrai et unique père de la communauté. C'est sous la dynastie suivante, la dynastie des Zhou, qu'apparaît la dénomination « fils du ciel » pour désigner le souverain. Le ciel est représenté par un caractère qui est une variante d'un homme grand. Il se substitue au souverain d'en haut, qui était dit « di », qui se trouve aussi sur ma feuille, être suprême, auquel sous les Shang était rendu un culte de rite ancestral. Mais le sacrifice au ciel, dans la banlieue sud de la capitale, accompli par l'empereur lui-même, censé légitimer son autorité et dont on a souvent fait la clé de voûte du système impérial, ce sacrifice exclusivement permis à l'empereur a été inventé de toutes pièces par les lettrés de la cour des Han. C'est encore Dong Zhongshu, le principal inventeur, qui a prétendu que le rite avait été oublié, qu'il remontait à la plus haute antiquité, qu'il avait été pratiqué par tous les sages souverains, et son but, et celui des lettrés autour de lui, c'était d'exclure à la cour l'influence des cultes locaux que les souverains des Zhou allaient souvent visiter et surtout d'évincer le pouvoir de ce qu'on a traduit par les magiciens, qui célébraient et propageaient ces cultes. À côté de l'orthodoxie, fondée uniquement sur les classiques confucéens, les lettrés des Han ont créé un culte d'État supérieur à tous les autres, ce culte du ciel, et c'est seulement en 31 de notre ère qu'a été célébré le premier sacrifice au ciel dans la banlieue sud. Jusque-là, ce sacrifice de la banlieue sud était dédié à Taï, c'est-à-dire l'un suprême ou le grand un, qui désigne l'unité originelle des êtres, selon le classique des changements. Ce qu'il faut surtout retenir de cette incursion cavalière dans l'Antiquité, c'est d'abord que dans la culture chinoise, le pouvoir est une affaire d'êtres humains concrets, pas d'idées abstraites ou de puissances invisibles. On ne voit pas de Yahvé des Hébreux qui intervient sans cesse, ni de Dieu de Saint Paul qui est une limitation parce que le détenteur du pouvoir doit constamment lui rendre compte. La formule, c'est « Zhenzhe », c'est-à-dire l'homme, l'être humain, les hommes gouvernent, régulent. L'autre point à remarquer, c'est que dans le corpus énorme de textes anciens relatifs au passé de la Chine, on trouve d'une part des annales qui relatent soigneusement et sèchement les événements selon un ordre strictement chronologique, sans que l'enchaînement temporel ne soit en rien suggéré comme causal, et d'autre part, un discours sur ce qui s'est passé, qui est parfois l'opinion de l'auteur sur les événements, mais qui le plus souvent rapporte ce qu'il est convenu de dire des événements survenus, la manière dont ils étaient représentés, parfois au moment même, parfois longtemps après. Le roi Shang avait des fonctions religieuses et guerrières. Il a des officiers, mais pour son service personnel, garder le tombeau, surveiller ses domaines. Ces officiers n'interviennent pas dans la gestion de la société. Il n'y a aucune administration locale. C'est à l'avènement de la dynastie des Zhou vers 1100 avant notre ère, que des changements importants sont introduits. La société Shang était ethniquement homogène, à part quelques petits groupes, dont celui précisément des Zhou, qui leur ont enlevé le pouvoir, en s'alliant à d'autres ethnies variées. Le souverain Zhou inféode ses alliés comme des frères cadets, en donnant à leur chef le droit d'ériger un autel du dieu du sol, subordonné à celui de la capitale, dans un lieu donné où sera implantée leur maison seigneuriale. Il s'agit de terres déjà habitées. Dans la sphère supérieure de la société, celle des parents et alliés du souverain, le statut personnel de chacun est déterminé par le mandat, le ming, qu'il reçoit du souverain et qui précise sa charge dans les services religieux et militaires de la royauté avec son rang. Le roi, investi par le ciel, par un ming aussi, investit ses auxiliaires qui investissent à leur tour leurs propres auxiliaires et les réunissent en groupe. Les formes nouvelles des cultes des ancêtres, avec des petits rites et des grands rites qui réunissent des groupes plus ou moins étendus et montrent aux participants toujours leur place exacte dans la hiérarchie, sont célébrées régulièrement. Mais au-delà des quelques 50 fiefs autour de Luoyang, la capitale des Zhou, s'étend une zone d'allégeance, qu'on appelle Fugo, qui est peuplée de communautés variées qui n'ont jamais été intégrées et d'où est venu finalement l'affaiblissement de la dynastie. Au 7e et 6e siècle avant notre ère, la puissance des souverains Zhou s'efface, ils ne gardent guère que les prérogatives religieuses et le pouvoir politique et militaire est entre les mains des féodaux, qu'on appelle les hégémons, et qui se battent sans arrêt entre eux. C'est aussi une période d'extraordinaire création intellectuelle, riche d'innovations. Et c'est alors qu'apparaissent les lois écrites, un droit pénal gravé sur des chaudrons en bronze où l'on fait bouillir les condamnés et les ministres corrompus. On voit aussi apparaître un groupe social des lettrés employés dans l'administration, occupés à former des disciples. Certaines seigneuries s'agrandissent en annexant leurs voisins. Elles se combattent, on les a appelées royaumes combattants, et mettent en place des structures étatiques inspirées par le régime des armées, avec des fonctionnaires révocables, payés en grains. Parmi ces États, celui de Qin affirme sa supériorité, notamment militaire, par une infanterie armée d'arbalètes, doublée d'une cavalerie montée comme les nomades de la steppe, et Qin réussit à conquérir tous les autres royaumes. En 221, son souverain prend le titre de premier auguste souverain, en réalité premier empereur, c'est Huangdi, et Huangdi c'est le titre de l'empereur pour la suite. Par référence, ce titre de Di, c'est par référence aux légendaires souverains des classiques, les trois augustes et les cinq empereurs, qui s'appelaient les Sanhang ou Di. Le premier empereur a défini lui-même l'œuvre qu'il avait accomplie dans une longue inscription sur des stèles érigées sur son ordre dans tout l'Empire. Et ces stèles portent notamment ces mots. L'empereur a réuni le monde, et c'est vraiment le monde, l'espace habité. Il porte l'ordre dans la foule des êtres. Il examine et met à l'épreuve la réalité des faits. Chaque chose a le nom qui lui convient. Ainsi, c'est un système rigoureux, clair, prévisible, qui est mis en place. Concrètement, ce premier empereur a supprimé les fiefs et divisé le territoire en préfectures et sous-préfectures, dirigées par une administration civile centralisée. Il a divisé la population selon une organisation militaire, en groupes collectivement responsables, c'est de là que date ce système social, ayant le plein usage des terres, moyennant impôts et corvées. Mais la propriété des terres reste à l'État qui peut toujours reprendre la terre. Le premier empereur a unifié l'écriture, la monnaie, les poids et mesures. Il fait construire un excellent réseau routier. Les routes ont 35 mètres de large. Il a fait brûler les livres jugés inutiles, exécuter les lettrés jugés dangereux et il a fait construire la Grande Muraille. La dynastie des Han qui s'établit en 206 avant notre ère, après la chute catastrophique du fils du premier empereur, cette dynastie qui dure jusqu'en 220 de notre ère, a profité de l'unité créée et elle donne à l'Empire une expansion territoriale considérable. Elle rétablit les fiefs puis les supprime et elle s'appuie sur les lettrés qui élaborent à ce moment-là une organisation et une doctrine générale d'administration qui sont restées l'orthodoxie, la référence jusqu'à la fin de la monarchie impériale. La nature réelle du pouvoir politique en Chine à l'époque impériale reste une question controversée parmi les historiens, les philosophes, dans l'opinion publique, en Chine et à l'étranger. Depuis les années 1930 déjà, des historiens et penseurs chinois montrait qu'il existait une division du pouvoir, des contre-pouvoirs, un équilibre qui, à certaines époques, méritait même le nom de démocratie. Le débat continue, soit par désir d'opposer un despotisme raisonnable à la cruauté arbitraire des dictatures modernes, soit dans l'idée de prouver que la pensée confucéenne est un parfait garant des droits de l'homme et de l'intérêt général, et que le dogme répété par Mencius et beaucoup d'autres, selon lequel le peuple est la base de l'État, ce dogme a toujours été l'expression théorique et réelle des droits de l'homme en Chine et de la réalité de ces droits dans la culture chinoise. Une fois l'Empire créé, les lettrés ont produit une énorme littérature sur le gouvernement, son organisation, son fonctionnement, ses méthodes, les moyens de le conserver. Mais ils s'interrogent très rarement sur la nature et le fondement même du pouvoir. Le pouvoir impérial tel qu'il s'établit en 221 et perdure jusqu'en 1911 est le résultat de pratiques et d'idées élaborées en fait avant l'instauration de l'Empire unifié, dans la période de liberté et d'expérimentation du 7e au 3e siècle avant notre ère. Or, la réflexion de cette époque a accordé beaucoup de place à la culture personnelle, à l'amélioration de soi, mais elle ignore totalement la notion de droit subjectif et de liberté des personnes. La conception politique qui s'impose alors est un pouvoir intégrateur, total, pas seulement sur ce que nous appelons aujourd'hui politique, indivisible, absolu et souverain, appartenant exclusivement au souverain en personne et qui de ce fait est complètement à part, au-dessus des autres êtres. Mais si dans la réalité il y a eu pléthore d'empereurs faibles ou incapables, de ministres de concubines et de favoris influents, d'usurpateurs, cette conception du pouvoir politique n'a jamais été mise en question jusqu'à la réflexion sur la pensée et les pratiques occidentales à partir de 1860. Tout au plus, de très rares esprits non conformistes, comme Huang Zongxi au XVIIe siècle, ont proposé de se passer d'un souverain à cause des désastres qu'engendrait le chef unique, mais sans concevoir vraiment un nouveau système de gouvernement. Toutes les formes spéciales de respect rituel dues à l'empereur ont été observées jusqu'à l'abdication impériale en 1912. L'idée force qui a présidé à la création et au maintien du pouvoir impérial, c'est l'idée d'unité, d'unification nécessaire, car conforme à l'ordre du monde, à sa vie, à son mouvement. Cette croyance s'exprimait dans le culte du grand un, le Taï. Il s'agit de l'univers entier. Et dans les mots chinois du politique, cette idée d'unité est le Daïton, que je n'ai pas mis sur ma feuille, la grande unification, l'exercice d'un pouvoir unifiant qui rassemble tous les territoires. Tong, c'est l'extrémité extérieure du fil d'un cocon de soie, d'où l'idée de continuité et d'unification ou d'intégration. Cette unité de l'univers fait que le pouvoir ne peut être que tout entier concentré dans la personne du chef. Il n'y a qu'un soleil au ciel, dit Confucius. Le chef est chef par son de. Le de, c'est un terme dont le sens à l'ambivalence du virtus en latin. En l'occurrence, il ne s'agit pas tellement de moralité que d'une puissance qui découle de la fonction de chef et qu'il transmet à son héritier qu'il désigne lui-même. Le problème de la légitimité ne se pose qu'en cas de chute de la dynastie et dans l'esprit de ceux qui étaient loyaux à la dynastie précédente. Ceux qui adhèrent, il n'y a pas de problème de légitimité. À l'idée d'unité est liée celle que l'empereur est propriétaire de tout le territoire, de la terre entière, et de toutes ses ressources matérielles, ses mines, ses voies, ses eaux. Il peut en disposer à son gré. Son pouvoir est indivisible, souverain, sans aucun partage, sans aucun rival. Toutes les écoles de pensée chinoises sont opposées à la pluralité. Il existe de multiples maximes en ce sens. Outre celles sur le soleil et la lune uniques dans le ciel, une autre maxime très répandue déclare: s'il y a une seule source d'autorité, l'ordre règne. S'il y en a deux, c'est le désordre. C'est la théorie de la source unique que je n'ai pas mis sur ma feuille, c'est le Yuan Lun. C'est un autre mot chinois du politique, ainsi que le jeu, le faire régner l'ordre. La partie gauche de ce caractère qui est sur mon papier figure l'eau. La partie droite est purement phonétique. Et l'idée, c'est qu'il faut faire couler les choses humaines comme l'eau. L'antithèse de Dieu, c'est Luan, le désordre. Le désordre, ce sont des fils de soie embrouillés dans un cadre suspendu au mur. La doctrine de la source unique du pouvoir s'applique au monde entier. Et cette source est naturellement le Fils du ciel. Curieusement, sauf Huang Zongxi que j'ai cité, jusqu'à la fin du XIXe siècle, aucun penseur chinois n'a réfléchi sur le désordre que pouvait apporter une source d'autorité unique. Il faut aussi contester l'opinion de beaucoup d'auteurs étrangers, notamment des juristes, qui assure qu'avant les conflits du XIXe siècle avec les puissances occidentales, la Chine aurait ignoré la notion de souveraineté. Le pouvoir impérial a toujours été souverain, avec tous les attributs de la souveraineté, reconnu et voulu comme tel. Il était défini comme Zhu Quan, pouvoir du maître, du chef, terme qui, aujourd'hui encore, désigne la souveraineté. Simplement, les Chinois n'admettaient l'existence d'aucun autre pouvoir ou État souverain. Ils ne concevaient qu'une souveraineté universelle, pas une souveraineté internationale, c'est-à-dire la coexistence d'États également souverains, ce qui est une situation dont ils avaient éprouvé les inconvénients au temps des royaumes combattants et dont il se sentait définitivement guéri. L'empereur concentre tous les pouvoirs et les contrôle entièrement. Il commande lui-même l'armée, il nomme tous les juges et les officiers, et il décide de toutes les peines capitales. Il est le seul détenteur du pouvoir de décision. Il décide de tout, seul et sans appel. L'appareil d'État n'est en réalité que son instrument qu'il peut casser, changer, renvoyer à son gré. En effet, la suprématie absolue de son pouvoir est une réalité et est en réalité une transcendance. Il est le maître de toutes les hiérarchies dans la société, y compris celle des clans familiaux. Il peut changer l'ordre. Il peut les modifier à sa convenance. Mais il est supérieur à toutes les hiérarchies et n'appartient à aucune d'elles. Certains confucéens ont prétendu qu'il était le plus haut gradé de la hiérarchie civile. Mais tel n'est pas le cas. C'est lui qui change toutes les hiérarchies et qui les décide. Et beaucoup de souverains se plaisent à ajouter des titres aux titres qu'ils possèdent. Les oppositions au sein de la bureaucratie, les cliques, les lois, les règlements n'ont jamais mis en cause ni réellement limité le pouvoir impérial. L'évolution historique a au contraire renforcé le principe monarchique jusqu'en 1900. Deux observations doivent encore être ajoutées. La première, c'est que dans l'exercice du pouvoir impérial, il existe une sphère supérieure, très organisée et réglementée, celle d'un monde officiel et urbain, et une sphère inférieure des communautés locales qui vivent selon leurs coutumes, qui se gouvernent elles-mêmes avec peu d'interférence des autorités, à condition qu'elles payent l'impôt et accomplissent les corvées. À l'intention de ces communautés, le Saint-Édit, une sorte de code des devoirs et obligations de tous les sujets impériaux, a été rédigé par l'empereur Kangxi en 1670 en 16 maximes de 7 caractères chacun. Une édition augmentée, commentée en langue vulgaire, a été composée par son fils en 1724. Ce Saint-Édit était affiché partout. Il était lu et commenté régulièrement dans les réunions de village. Obligatoirement, c'était aussi un texte obligatoire aux examens civils et militaires. Et tout le monde le savait par cœur, comme la référence d'une moralité privée dans la famille et d'une moralité publique dans la communauté d'habitants et l'État. Par transmission familiale, ces maximes restent encore une des sources essentielles de la sagesse populaire en Chine. Une autre observation, c'est que la pratique de la politique telle que l'exerce l'empereur ne réside pas dans l'initiative, l'exécution, la réalisation, mais dans un art des stratagèmes, un art de la consultation multiple, qui donne à beaucoup de conseillers l'illusion de la puissance et qui a pour but d'exercer une domination de manière insensible mais certaine, toujours au moindre frais, sans grever le trésor, sans recourir aux armes, en rendant la violence inutile. C'est ce que notre confrère correspondant Jean-François Bilter nomme la nature stratégique du génie politique et de l'esprit chinois. Dans les mots, un terme de clé est Quan, le pouvoir, qui désigne à l'origine la balance d'un genre de notre balance romaine, où, pour savoir le poids d'un objet suspendu à une extrémité d'une tige, on déplace un contrepoids le long de cette tige graduée. Et le mot a aussi le sens abstrait de savoir peser les circonstances, apprécier ce qui donne le meilleur résultat, évite les dommages, régler, ajuster, équilibrer. Mais il y a quand même le bâton dans ce caractère. Dans les classiques, le mot est employé au sens propre et au sens figuré. Un autre terme est « che », plus subtil, qui désigne l'ascendant, la compétence, l'influence, c'est-à-dire la force appliquée à une profession. La partie supérieure du caractère qui se trouve sur ma feuille désigne l'agriculture. Il s'agit de manier des tas de terre avec ses mains. La partie inférieure, c'est la force, l'effort. Oui, la majesté, le prestige, est un caractère qui combine la figure d'une blessure causée avec une lance et celle d'une femme. La femme, elle est au milieu, sous le bâton. C'est une autorité qui en impose, qui inspire la révérence, qui terrifie. Bien que le confucianisme des Han ait tranché en faveur de la dimension externe de la royauté, ce qu'on appelle le Wai Wang, l'autorité, les normes institutionnelles, aux dépens de sa dimension intérieure de sainteté, les qualités de saint, de sage que doit avoir le Neisheng, que doit avoir le souverain, l'introspection, les valeurs personnelles, qui étaient privilégiées par exemple par Mencius. Bien donc que les Han aient tranché pour la dimension externe, il est toujours resté dans la pratique des empereurs et dans le consentement de leurs sujets une tension entre les deux. Passons à l'après-empire. La révolution de 1911 a aboli le principe monarchique. Yuan Shikai, président de la Nouvelle République, a tenté en vain de le rétablir en se faisant proclamer empereur en 1915. Une restauration monarchique en faveur de la dynastie déchue a échoué en 1917. Chiang Kai-shek s'est efforcé de reconstituer à son profit un pouvoir central unique et fort, mais les effets de la Seconde Guerre mondiale ont ruiné ses espoirs. L'avènement de la République populaire de Chine en 1949 a-t-il introduit un nouveau régime de pouvoir politique faisant fi des principes anciens ? Napoléon III écrivait en 1839 à propos du socialisme futur « Autant d'autrefois l'opinion publique avait réclamé l'affaiblissement du pouvoir parce qu'elle le croyait hostile, autant elle se prêtait à le renforcer depuis qu'elle le voyait tutélaire et réparateur. » Et c'était bien là l'état d'esprit d'une majorité des classes instruite en Chine en 1949, dans un pays saigné à blanc par de longues années de guerre et une inflation galopante. Toutefois, comme faisant écho à un avertissement de Sieyès à la Convention, qu'en matière de gouvernement et de constitution politique, l'unité seule est despotisme, la direction du Parti communiste, qui venait de prendre le pouvoir par les armes, se prêta à partager ce pouvoir avec d'autres forces politiques et à mettre sur pied ce que Sieyès aurait appelé une unité organisée, avec des contrepoids au moins apparents. En entrant dans Pékin en 1949, Mao Zedong disait qu'il allait passer l'examen, comme autrefois les lettrés à la capitale. L'examinateur, c'était l'ensemble des forces non communistes avec lesquelles il fallait discuter le texte d'une constitution et leur représentation au sein du pouvoir pour obtenir une légitimité populaire et une légalité. Le régime se donna une façade démocratique avec une séparation des pouvoirs, la participation de plusieurs partis, 13, ils sont toujours 13 d'ailleurs, autres que le Parti communiste, siégeant dans une conférence consultative politique qui est un lieu d'assemblée législative jusqu'aux élections et la constitution de 1954. Un programme commun établissait les institutions d'État et le programme de gouvernement. Il ne disait rien du Parti communiste. C'était la sphère supérieure. Dans la sphère inférieure, l'organisation du parti et l'armée, qui en fait exerçaient le contrôle de l'administration locale, prenaient rapidement en main la population pour casser ses solidarités anciennes par l'intimidation collective ou, au besoin, la contrainte individuelle, pour cloisonner les gens, pour les empêcher de se déplacer, pour détruire préventivement toute opposition organisée. Au sein des institutions et des unités de travail en ville, des organes du parti ou de jeunes sympathisants surveillaient la direction et la gestion. Les banques, les industries, les entreprises commerciales importantes furent rapidement nationalisées, les autres mises sous contrôle, ce qui fournit des emplois à beaucoup de membres de l'armée et du parti. Il y en avait 5 à 6 millions dans chaque institution à ce moment-là. Toute la population fut soumise à des sessions d'endoctrinement et des campagnes de masse pour dénoncer et éliminer contre-révolutionnaires et ennemis de classe. La collectivisation se mit en place dans les campagnes. Les mécontentements éclatèrent au moment des Sans-Fleurs en 1956. La réponse fut une répression féroce qui réduisit au silence, sous l'emprise de la terreur et de la censure, toute la classe instruite. Les autorités se sont alors lancées à tous les niveaux dans un engrenage de violence pour accélérer une industrialisation rendue à la fois plus difficile et plus urgente à cause de la rupture avec l'Union soviétique. Les 30 millions de morts dans la famine de 1959-1960 ont apporté à peine une trêve dans la frénésie des records. La société était totalement asservie, les liens familiaux rétrécis et affaiblis par les contraintes du travail assignées par l'État. Qui tient le pouvoir politique à ce moment-là? L'appareil d'État n'est que l'instrument du Parti communiste sans pouvoir de décision autonome. Au sein du parti, le fonctionnement régulier des organes de décision est déjà compromis par l'ascendant que Mao Zedong a pris comme président du parti avec le consentement d'une majorité des membres et par les réseaux personnels qui l'animent et autour desquels se groupent des éléments frustrés de la bureaucratie et de l'armée. Je n'ai pas le temps ici de retracer les étapes par lesquelles le pouvoir chinois, dont les détenteurs ont assez fortement varié du fait de morts naturelles ou d'assassinats plus ou moins déguisés, les étapes par lesquelles il a successivement ou concurremment joué sur une relation de puissance, sur une relation d'autorité assise sur la fascination exaltée et même sur un culte avec des autels, puis sur une relation de direction étayée par la compétence. Tout cela au cours de 50 années de lutte complexe et mouvementée. Il faut noter quand même qu'entre 1967 et 1969, 9e congrès du parti, le Parti communiste n'existe plus, sauf un petit groupe à l'échelon suprême, dirigé par Mao, et au niveau inférieur, c'est l'armée ou des groupes hétéroclites intronisés par l'armée ou par le groupe central de Pékin, qui dirige et anime la société. Le changement vers un pouvoir de la compétence technique s'effectue à partir de 1977 par une coalition de grands commandants militaires et de hauts dirigeants civils ayant aussi une expérience militaire. Pour le congrès de 1982, un de ces dirigeants a été chargé de fournir une liste de 1000 diplômés d'enseignement supérieur qu'on puisse faire siéger au Congrès pour les faire grimper ensuite dans la hiérarchie. Parmi eux se trouvaient Jiang Zemin et Hu Jintao, assez vite promus à la tête du parti. Pour le Congrès de 1987, c'était une liste de 1000 enfants d'anciens hauts dirigeants du parti qu'il fallait fournir. Et parmi eux, curieusement, un certain nombre ont refusé une carrière politique, préférant d'autres voies plus lucratives et surtout moins dangereuses. Dans la période de 1978 à 2012, le fonctionnement des instances dirigeantes du parti s'est normalisé, a suivi des règles claires et respectées. En revanche, la vie des cellules de base et leur rôle dans la société ou dans la vie des entreprises a considérablement diminué à partir de la fin des années 1990. Dans le même temps, le développement économique faisait naître une classe aisée, souvent employée dans des entreprises privées et sans aucun lien avec le parti. Dans les quartiers urbains, les gardiens d'îlots n'avaient plus de rôle politique. Dans les campagnes, la privatisation des exploitations agricoles enlevait leur importance au cadre du parti. Une grande partie de la société échappait complètement à l'emprise du contrôle du parti, à sa hiérarchie, et s'atomisait. Même la famille tendait à perdre sa structure hiérarchique du fait de la politique de l'enfant unique qui fait qu'il n'y a plus de cadets et d'aînés. La société connaissait sous toutes sortes d'aspects l'art, la culture, le loisir, le travail, un réel élargissement de son espace de liberté. Depuis l'élection de Xi Jinping comme secrétaire général du parti au 18e congrès de 2012, on assiste à un tournant avec l'hégémonie montante d'un dirigeant unique, suprême, délié des règles ordinaires. On a entendu d'abord, dès 2013, un nouveau discours qui portait au premier plan la sécurité de l'État, à l'intérieur comme à l'extérieur, et non plus le développement économique et la stabilité. Une commission de sécurité nationale a été créée, chargée de coordonner l'action de toutes les nombreuses agences chargées de la gestion des crises. Les appareils des différentes forces ordinaires et spéciales de sécurité, d'espionnage, de contre-espionnage, ont été épurés, réorganisés, renforcés à l'intérieur et partout à l'étranger, avec des moyens abondants et d'avant-garde. 11 domaines d'investissement sécuritaire font l'objet de politiques publiques actives depuis 2014. Construire une menace externe permet à la fois d'agir en interne sans aucune limite juridique contre des individus devenus indésirables et aussi de justifier toutes les aventures extérieures. À ce discours sécuritaire s'ajoute de la part de Xi Jinping lui-même depuis 2008 déjà, un discours sur le déclin occidental, affaibli par la crise économique et sociale profonde, par une idéologie décadente et qui annonce tout cela, le retour de la Chine comme pôle mondial unique. Commencé dès son ascension au pouvoir contre des chefs provinciaux rivaux réels ou potentiels, par exemple Bocilai, au nom de la lutte contre la corruption, les purges politiques ont atteint un nombre considérable de personnages dans tous les appareils, plusieurs millions et des milliers de gens saisis à l'étranger, certains très puissants, punis de lourdes peines, dans des procès le plus souvent opaques. Il est vrai que la corruption généralisée met en péril la légitimité du parti et que ces condamnations ont certainement contribué à la popularité de Xi auprès d'une grande partie de l'opinion. Mais elles terrifient et paralysent, notamment dans les administrations locales, et elles freinent depuis plusieurs années déjà les initiatives de développement économique et la mise en œuvre de toutes les politiques publiques. Les purges sévères continuent, et le secrétaire général de la Commission centrale du parti aux affaires politiques et juridiques a annoncé tout récemment qu'on allait, je cite, « purger le poison jusqu'à l'os ». Non, gratter le poison jusqu'à l'os. Le chemin suivi n'est pas celui de Pascal, c'est nettement la force sans la justice et des plus tyranniques. À l'égard des minorités agitées, le gouvernement pratique la tactique de contre-insurrection qui avait été inventée par les Japonais pour pacifier les Aïnous à Hokkaido, puis importée en Chine et par nous, les Anglais aussi, qui consiste à dispenser les biens essentiels de la modernité à un très petit groupe, sécurité, éducation, santé, un peu de capital aussi, et du coup la soumission devient un acte modernisateur, tandis que l'adhésion à une dissidence est quand même livrée à l'incertitude. Mais envers le milliard de Chinois dont les revenus restent faibles et souvent aléatoires ou anéantis maintenant du fait de la pandémie et du ralentissement du commerce international, la situation est plus difficile. Pour disperser les manifestations violentes d'anciens soldats qui protestaient un peu partout contre le niveau dérisoire de leur pension l'an dernier, la tactique a été seulement de distribuer de grosses enveloppes rouges pleines d'argent à quelques meneurs pour qu'ils dissuadent la troupe. La politique d'aide à la grande pauvreté achoppe sur la paralysie de la bureaucratie que j'ai évoquée. Le parti, dans ses hautes sphères, a la main sur l'économie d'État qui comporte d'une part beaucoup d'entreprises médiocres et sans rendement, déficitaires même, mais aussi les très grosses firmes de l'énergie, des communications, des secteurs stratégiques qui rapportent beaucoup et dont les dirigeants sont des membres de la famille des dirigeants. Xi Jinping a fait rediffuser récemment un discours de 2015 où il affirmait l'attachement inébranlable à l'économie politique marxiste, le maintien de la position dominante de la propriété publique et du rôle dirigeant de l'économie d'État. On ne doit pas marginaliser le marxisme, dit-il. L'économie d'État, il est vrai, est une soupape très utile pour éviter l'explosion trop violente du chômage. En novembre 2019, le plénum du comité central avait annoncé la modernisation du système et de la capacité de gouvernance chinoise sous un slogan nouveau, le règne de la Chine. En fait, c'est une référence au souvenir laissé dans l'histoire par le règne de Taizong des Tang. Et c'est le bon gouvernement de Taizong. Et là, c'est le bon gouvernement de la Chine. C'est le jeu. On envisageait dans ce communiqué une réduction de l'appareil central à 600 fonctionnaires au lieu de 2000. Des réductions aussi dans les divisions de l'administration locale. On vantait encore la frugalité de l'empereur Taizong. Jusqu'à présent, le seul effet de ces annonces a été un ordre de réduire le nombre des plats dans les repas officiels et de surveiller le gaspillage alimentaire. On constate en tout un retour à des références nationales pour lutter contre les idées d'individualisme et de liberté et prôner la version la plus conservatrice qui soit, la plus moralisante du confucianisme. La censure sur les écrits et les publications est d'une sévérité redoutable actuellement. On a introduit des organisations du parti obligatoires dans les entreprises privées et les systèmes de quartier pour obliger tous les habitants à recevoir de nouveau une instruction politique régulière. L'endoctrinement systématique et le contrôle de toutes les communications privées s'exercent avec la plus grande rigueur. Outre tous les systèmes électroniques de traçage de la population urbaine et la répression politique implacable contre les opinions indépendantes, travesties toujours en haute trahison, l'incursion dans la vie des gens est inimaginable. On organise, on encourage de nouveau la surveillance et la dénonciation sur les lieux de travail parmi les étudiants, par exemple. Le rôle dirigeant du Parti communiste est inscrit dans la Constitution depuis 2004. L'État n'est que l'instrument du parti. Mais qu'est-ce exactement que le Parti communiste chinois aujourd'hui et qui détient le pouvoir en son sein? Le parti a 90 millions de membres, dont le niveau d'éducation s'est beaucoup élevé. Il reste très sélectif. Il ne recrute qu'un candidat sur 10. Il y a beaucoup de candidats. Il affirme-t-il. Le pouvoir politique reste au sommet. Il n'y a pas de démocratie aux échelons inférieurs. La compétence technique de très haut niveau caractérise son personnel, qui reste filtré par un système très rigoureux. Mais la collégialité organique qui avait été de règle entre 1978 et 2012 semble beaucoup moins effective aujourd'hui. Il y a encore des réunions du bureau politique, mais ça n'est pas important. En arrivant au pouvoir, Xi Jinping s'est constitué des équipes personnelles extérieures au gouvernement et au parti. Oui, il y a des membres du gouvernement et du parti, mais qui sont ces équipes? Et ceci, ce n'est pas nouveau, c'était la pratique courante sous l'Empire, et Zhou Enlai avait ses équipes, et Mao aussi. Mais les équipes de Xi ont pris une grande envergure et sont venues de véritables institutions qui doublent celles du parti et de l'État. De même que l'empereur avait ses eunuques. Xi a veillé aux nominations dans les postes civils et militaires. Il s'est constitué un vaste réseau solide qui peut lui permettre de changer les règles, il l'a déjà fait, et de briguer un nouveau mandat. Il lui manque encore le titre de président du parti qui avait été aboli en 1982. Quelle est l'emprise réelle de ce retour à l'autocratie totalitaire sur la population? On a des échos de fortes réserves parmi le plus haut personnel du parti de l'État, comme parmi le personnel des affaires. Mais la terreur règne actuellement. Le désarroi des petits gens et des familles modestes qui voient que l'argent est le seul critère de valeur pour juger les individus et les familles dans un système qui se dit marxiste et maoïste, sans qu'on s'interroge jamais sur l'origine des fortunes accumulées, ce désarroi est désormais profond. Les gens ne comprennent plus la société dans laquelle ils vivent. Beaucoup de jeunes s'étourdissent de musique, de bizarrerie. Dans les milieux intellectuels, règne pour le moment la résignation ou le cynisme absolu. On ressent l'enfermement dans un monde clos. Mais le pêcheur de la ville de Chongqing, auquel on enlève son gagne-pain en lui interdisant de continuer à pêcher des poissons dans le fleuve à cause de la construction d'un barrage, répond calmement « Si l'État me dit de ne plus pêcher, je ne dois plus le faire. » Un seul chef au sommet auquel on obéit, c'est encore la vision de beaucoup de gens, malgré tout. Une sorte de pôle auquel on se raccroche, un père. Et d'ailleurs, Xi Jinping se fait appeler Xi Dada, c'est-à-dire Papa Xi. Le renouveau autoritaire a-t-il donné les preuves de sa supériorité pendant la pandémie du coronavirus? C'est ce que clame la propagande chinoise et, comme tous les médias étrangers sont interdits aux citoyens chinois ordinaires, elle n'a donné sur la pandémie à l'étranger, spécialement en Europe et en Amérique du Nord, que les informations montrant l'incapacité totale des Occidentaux à gérer la crise et les progrès ravageurs du virus. S'ils ne nous avaient pas donné des masques, nous serions déjà morts. Les témoignages individuels sont beaucoup moins admiratifs. L'opinion générale est que toutes les statistiques publiées sont fausses, comme d'habitude, que les mesures prises ont été extrêmement pénibles à supporter, pas forcément efficaces, et que surtout les débuts de l'épidémie ont été très mal gérés. L'état des hôpitaux n'était pas brillant. En 2017, l'Association des médecins chinois se plaignait que dans l'année, les deux tiers des médecins avaient été agressés par leurs malades ou leurs familles. En 2016, 0,2% des médecins de sous-préfecture, c'est-à-dire l'équivalent d'un département chez nous, hein, 0,2% avaient fait 3 ans d'études ou un peu plus. On n'arrivait pas à trouver des médecins pour les sous-préfectures. Et certainement, beaucoup de malades en province n'ont pas été soignés ni comptés. Il faudra sans doute très longtemps pour savoir la réalité. Le sujet est très fortement surveillé sur les réseaux sociaux chinois et les messages jugés dangereux immédiatement supprimés. On a annoncé un vaccin mis au point le 15 août. C'est celui qui a été expérimenté sur l'armée chinoise. Je me suis demandé si c'était pour tuer des vieux soldats. Mais depuis, on n'a aucune nouvelle de l'application. Ce qui est certain, c'est que l'épidémie a permis de perfectionner la surveillance sociale. Le code de santé est désormais obligatoire par une application sur smartphone dans tous les transports urbains ou autres. Cela veut dire que 496 millions de Chinois qui n'ont ni portable, ni tablette, ni ordinateur, ni Internet sont tout à fait exclus et ne peuvent même pas venir travailler en ville sauf à marcher à pied. En région urbaine, 40% des habitants n'utilisent pas Internet et 60% en région rurale, bien que théoriquement, la fibre ou la 4G couvre 98% des habitants. En conclusion, que dire ? L'idée de l'empereur, au-dessus des hiérarchies, maître absolu et unique de ces hiérarchies, n'a certainement pas quitté l'imaginaire chinois. L'orientation économiste et foncièrement néolibérale en cette matière seulement, cette orientation économiste qu'a pris la politique du Parti communiste chinois contribue à perpétuer cette conception du pouvoir en perpétuant des hiérarchies très marquées, en laissant aujourd'hui moins de place que par le passé au renouvellement régulier des élites qui, autrefois, faisaient accepter le système. C'était le cas sous l'Empire. Dans l'arène internationale, un tel système, quelle que soit sa masse, peut difficilement commander des normes recevables par tous. Il est impératif de négocier avec lui pour obtenir que de l'intérieur de son appareil se mette finalement en place un système plus adapté au monde d'aujourd'hui et correspondant à l'évolution actuelle de la société chinoise. On doit garder à l'esprit que la continuité avec les temps impériaux peut être parfaite dans le discours, mais que dans la réflexion de nombreux Chinois aujourd'hui, ce discours n'est plus admis et que la société qui supportait ce discours n'a pas fini de changer. Merci et pardon d'avoir été un peu long, mais le sujet est gros.